Europe Matin, le 7-9.
Spéciale présidentielle américaine. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer. Il est 8h.
Quand on est plus nombreux le jour J, on remporte l'élection. Je commence à vraiment penser qu'il va pouvoir gagner.
Les États-Unis vont-ils vivre leur deuxième vague de Trumpisme? 4 ans de plus, le scénario est beaucoup plus serré que ce que prédisaient les sondages. Nous serons en direct outre-Atlantique, à New York et en Floride. Les marchés financiers qui détestent l'incertitude politique sont servis ce matin, alors qu'on craint un dépouillement qui pourrait prendre plusieurs jours. Tandis qu'à l'Élysée, les équipes diplomatiques se sont préparées aux deux hypothèses. Les résultats dans ce journal, les analyses et la parole de l'éditorialiste du New York Times, Roger Cohen en direct.
Et juste après ce journal, en studio, ici à Paris, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, pour faire le point sur les conséquences de ce scrutin pour l'Europe, l'Union européenne, c'est nous, les relations entre les US et Bruxelles. Ou pas avec un nouveau président, nous verrons, Joe Biden ou Donald Trump, quel que soit le résultat, il répondra, Thierry Breton, aux questions de Sonia Mabrouk, à 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une déclaration au milieu de la nuit dans le Delaware, 1h moins le quart, le candidat démocrate Joe Biden prend la parole. Il ne veut pas risquer de se faire voler la victoire.
Nous savions à cause du volume inédit de votes anticipés par correspondance que cela prendrait du temps. Nous allons devoir être patients jusqu'à ce que le difficile travail de dépouillement soit terminé. Et ce ne sera pas fini avant que chaque bulletin ait été compté.
Joe Biden. Alors si l'on regarde la carte des États-Unis à l'heure qu'il est, on y voit beaucoup de rouge, couleur des républicains, couleur de Donald Trump. Mais attention aux effets d'optique, ce sont les États pas encore colorés qui pourraient faire basculer l'élection du prochain président américain.
Xavier Yvon, en direct de New York. Tout revient au swing state et c'est là que ça se complique car c'est encore très indécis.
Oui, alors on n'est pas très avancé hein, à cette heure justement, très avancé de la nuit ici, il est à 2h du matin. Le seul état pivot qui a livré son verdict, c'est la Floride. Donald Trump conserve le plus fameux des swing states et ses 29 grands électeurs, c'était vital pour lui. L'Arizona est sur le point de basculer pour Joe Biden, ce serait le premier état clé à changer de camp par rapport à il y a 4 ans. Ce serait la deuxième bonne nouvelle de la nuit pour les démocrates puisque Joe Biden vient de gagner un grand électeur dans le Nebraska, qui est un état qui pratique la proportionnelle. Ça paraît rien, mais ce grand électeur du Nebraska pourrait peser à la fin tellement c'est serré. Il reste encore la Caroline du Nord qui penche vers Trump, la Géorgie qu'on n'attendait pas aussi serrée. Et puis il y a surtout ces trois états de la Rust Belt dont on parle depuis des semaines qui ont porté Donald Trump à la Maison Blanche en 2016. Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Et là, ça se complique parce que les décomptes vont prendre encore du temps avec les votes par correspondance.
Les décomptes vont prendre du temps, vous nous le dites Xavier Yvon. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand on va devoir attendre?
C'est toute la question. Dans le Michigan, on pourrait n'avoir les résultats que dans 24 heures. C'est une responsable locale qui vient de le dire. Elle expliquait qu'il y a eu une participation record dans cet état. Plus de 5 millions d'électeurs, dont 3,5 millions qui ont envoyé leur bulletin en avance. C'est ça qui retarde le décompte, puisqu'ils sont déjà plus longs à traiter. Et que dans le Michigan, on ne pouvait pas les dépouiller avant le jour du vote, contrairement à d'autres états. C'est aussi cette règle qui retarde le dépouillement dans le Wisconsin. Et la Pennsylvanie, l'état natal de Joe Biden, très importante avec ses 20 grands électeurs. Il y a déjà une procédure judiciaire lancée par des républicains dans un comté de l'État pour contester le décompte. C'est exactement le scénario qu'on évoque et qu'on redoutait depuis des semaines, ce moment de flottement où tout est possible avec des armées d'avocats qui s'affrontent. Donald Trump n'arrête pas de dire, et il l'a redit ce soir, qu'on ne peut pas attendre des jours et des jours, alors que Joe Biden, lui, insiste pour que tous les votes soient comptés avant de déclarer un vainqueur.
Xavier Yvon avec nous en direct depuis New York où il est 2h04 du matin, tout comme en Floride. Presque 2000 km plus au sud, la Floride qui, avec ses 29 grands électeurs, est dans l'escarcelle de Donald Trump.
Théo Manval, vous êtes dans la ville de Tampa en direct, où les démocrates se mordent les doigts d'avoir laissé filer ce très grand état-clé.
Exactement, et la situation dans laquelle on se trouve ce matin suscite du coup beaucoup d'abattement. On n'a pas rempli notre mission, se désole Terry, quasiment prostré devant la télé au QG démocrate de Tampa.
On a eu peu de participation dans le comté de Miami, et d'habitude c'est un de nos gros bastions, et quand on n'est pas bon dans cet endroit, nos chiffres sont mauvais dans tout le reste de l'État. Donc je suis déçue, Biden n'avait pas besoin de la Floride pour gagner, mais Trump si. Donc on espérait qu'en gagnant ici ce soir, on mettait fin au suspense. suspense.
Bon bah voilà, c'est raté. Elle ne perd pas espoir hein, pour autant. Elle a bien entendu Joe Biden dire qu'il fallait attendre, qu'il s'estimait lui toujours en bonne position pour l'emporter. Mais Donald Trump, en réponse, accuse déjà, sans fondement, les démocrates de fraude. Et sans surprise, ici, ses partisans réunis reprennent en chœur ce refrain.
Il se passe des choses louches avec cette élection. Ils vont essayer de la lui voler. Mais je suis sûre qu'il arrivera aux 270 grands électeurs. Dieu va nous aider et on va garder notre liberté ici, aux États-Unis.
Voilà, il commence à se faire tard, hein, 2 heures du matin ici. Beaucoup de militants des deux côtés commencent à aller se coucher. Il va leur falloir un peu de repos, effectivement, pour cette bataille électorale qui va donc s'éterniser.
Théo Manval en ligne de la Floride pour Europe 1, où vous avez passé, Théo, la soirée d'un QG à l'autre entre républicains et démocrates. Vous l'entendiez il y a quelques minutes, Joe Biden a pris la parole cette nuit. Donald Trump a répliqué sur Twitter un message que le réseau social a carrément signalé comme potentiellement trompeur. Le président sortant annonce aussi une prise de parole. Les journalistes sont rentrés dans la salle de presse de la Maison-Blanche.
Dans la Maison-Blanche, il va prendre la parole dans la Maison-Blanche. J'en profite, Yannick Mirror est avec nous, politologue spécialiste des US. C'est normal pour un Français, ça pourrait paraître choquant qu'on se serve de l'Élysée. Pour des Américains, c'est parfaitement normal que Trump parle depuis la Maison-Blanche, y compris dans une soirée électorale.
De toutes les façons, vous savez bien que rien ne l'arrête, et même d'invoquer la Cour suprême comme un instrument de sa politique est quelque chose qui est dans l'indécence à laquelle il nous a habitués, même si c'est quelqu'un qui a eu aussi de bonnes intuitions au début de son mandat.
Vous ne manquerez rien. Ce matin, on surveille. Donald Trump doit prendre la parole. Et si on se passionne pour cette élection, c'est parce que l'on parle ce matin quand même de la première puissance mondiale, la première économie au monde.
Et ce résultat très serré, Emmanuel Duteil, c'est le pire des scénarios pour les marchés.
Oui, parce que ce que détestent le plus les marchés financiers, c'est l'incertitude. Si ce n'est pas plus clair dans les heures à venir, eh bien les investisseurs vont un peu tâtonner. On le voit même hein, en ce moment sur les indices américains, le Dow Jones, qui est un peu le CAC 40 aux États-Unis. Il continue de côté une fois la bourse fermée. Et là, il est passé dans le rouge il y a quelques minutes. Et ça va se compliquer encore si le résultat de l'élection est contesté par un des camps. À très court terme, une victoire de Donald Trump rassurerait les marchés. On peut dire que c'est leur candidat. La bourse s'est envolée pendant son mandat. Il faut dire qu'il a mené une politique très pro-entreprise. Baisse d'impôts, très peu de régulation. Et ça, les entreprises adorent. Mais bon, la guerre commerciale avec la Chine, la difficulté à mettre sur pied un plan de relance pour les États-Unis et sa gestion à venir du Covid inquiète aussi sur le long terme bon nombre d'économistes américains.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. L'économie, les relations internationales aussi et les dossiers qui sont nombreux à intéresser la France de très près.
Bonjour Michael Darmon.
Bonjour.
Trump ou Biden, ce qui est sûr, c'est que l'Elysée s'est préparé aux deux scénarios.
Oui, et si Biden devait gagner, cela pourrait même compliquer certains dossiers. Un exemple, selon nos informations, des diplomates spécialistes du monde arabe ont transmis récemment leur analyse au président de la République. En cas d'élection de Joe Biden, il ne faudrait pas montrer trop d'enthousiasme. Pourquoi ? Parce que les pays arabes seraient très déçus du retour des démocrates à la Maison-Blanche et dans le contexte tendu entre la France et le monde musulman, eh bien ce pourrait être une difficulté supplémentaire. Voilà qui résume bien toute l'approche au sommet de l'État. Une victoire de Joe Biden, ça serait certes un changement d'ambiance, dit-on. Mais on n'a pas oublié au Quai d'Orsay à quel point Obama n'était pas sur une ligne pro-européenne. Les pro-européennes, les bras de fer entre le continent américain et européens, donc, ne sont pas prêts de s'arrêter. Avec Biden, ce ne serait pas plus facile parce que les États-Unis mettront toujours leur intérêt, effectivement, en avant. Un grand symbole du changement, ce serait le retour des États-Unis à la conférence de Paris sur le climat. En cas de maintien de Trump à la Maison-Blanche, eh bien, on a l'habitude. Avec lui, on sait que ça marche au rapport de force, derrière les sourires de façade. Au Quai d'Orsay, à l'Élysée, on martèle un principe. Les présidents passent, une chose ne change pas. Les États-Unis restent notre allié, en particulier dans la lutte contre le terrorisme.
Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1. Un point, un instantané sur les grands électeurs qui feront la réelle élection du président des États-Unis. On en est à 224 pour Joe Biden, 213 pour Donald Trump. Il en manque donc encore une centaine à déterminer dans les heures ou les jours qui viennent. Et justement, nous sommes avec Roger Cohen, éditorialiste au New York Times. Bonjour Roger Cohen.
Bonjour.
Cette incertitude, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse ?
Je dirais oui que c'est dangereux et c'était assez prévisible. Si le résultat était serré, s'il n'y avait pas un raz-de-marée pour Joe Biden comme certains avaient prévu, il était certain que ce président, le président Trump, allait semer la confusion. Et cette nuit, il l'a déjà fait en disant que eux, Joe Biden, ils sont en train d'essayer de voler cette élection. Tout ce que Joe Biden a dit, c'est qu'il faut avoir de la patience. Et en effet, il va falloir avoir de la patience parce que on ne va pas avoir les résultats définitifs de la Pennsylvanie et du Michigan pour au moins encore une journée, je dirais, peut-être même plus.
Et au-delà de la patience, Roger Cohen, et du temps donc nécessaire au dépouillement, le gendarme de cette élection risque-t-il d'être la Cour suprême, dont on rappelle que 6 des 9 juges sont conservateurs, donc plutôt proches des Républicains?
Oui, il peut très bien à la fin être la Cour suprême. Ça viendrait à la fin d'un processus très confus qui pourrait durer qui durerait à ce point-là des semaines. Il est difficile d'imaginer que si on arrivait à un tel scénario, que cette Cour suprême ne donnerait pas l'élection au président Trump.
Roger Cohen, du New York Times, merci pour ces analyses en direct sur Europe 1 ce matin. 8h10, François Geffrier, cette élection ne nous fait pas oublier ce qui se passe ailleurs, en France, ici et dans le monde.
Avec cette nouvelle hécatombe dans les hôpitaux français, 430 morts hier du Covid-19, plus de 3800 patients qui sont en réanimation. Il y a eu 36 000 nouvelles contaminations recensées hier. Le Covid qui retarde encore le procès des attentats de janvier 2015, celui-ci ne reprendra pas avant le 12 novembre. La santé de Diego Maradona à la une également avec cette opération d'un hématome sous-dural, c'est-à-dire à l'intérieur du crâne, il y a quelques heures. Il s'est réveillé et tout va bien, nous dit son médecin. Enfin, sur le terrain du FC Porto, hier soir, l'OM a enchaîné sa 12e défaite d'affilée en Ligue des Champions, 3e défaite cette saison. 3-0 pour Porto. Ce soir, Chelsea-Rennes et Leipzig-PSG, soirée spéciale sur Europe 1.
Merci beaucoup, François
21h,
Geffrier.
21h.
À 21h, évidemment, l'horaire Ligue des Champions. François Geffrier pour le journal de 8h.